Bienvenue à chacun, que votre venue en ce lieu soit bonne, sans toi accueillie, quel que soit l'état de ton cœur, quel que soit l'état de ton âme, quel que soit l'état de ton corps. Que tu puisses te sentir toi pleinement, pour être toi et être ensemble à passer un moment pour rendre un culte à Dieu, pour apprendre de lui, pour nous encourager sur notre chemin de vie. Nous allons avoir ce matin une structure un peu différente de l'habitude pour passer ce temps ensemble. Ceci aussi dans le but de questionner nos habitudes et de raviver la signification de chacun de ces instants. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, bénis ces instants. Ouvre nos cœurs, nos âmes, nos intelligences pour être de toi et à toi, ici et maintenant. Amen.
Je vais lire dans Nombre 15, versets 32 à 36. Pendant leur séjour au désert, les Israélites trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris ainsi l'amenèrent devant Moïse, Aaron et toute la communauté. Ils le tinrent sous bonne garde, car rien n'avait encore été prescrit quant à la peine qu'il fallait lui infliger. L'Éternel dit à Moïse : Cet homme doit être puni de mort, toute la communauté l'exécutera à coups de pierre à l'extérieur du camp. Alors, toute la communauté le fit sortir du camp et le lapida jusqu'à ce que mort s'ensuive, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
Dans l'autre sens. Voilà. Je ne suis pas encore tout à fait habitué à ces objets. Alors bonjour à toutes et tous. Vous aimez ce texte que vous avez vu? Eh bien, je dois dire que en ce qui me concerne, ce texte... Voilà, parfait. Merci beaucoup. Alors, ce texte me heurte beaucoup, pour trois raisons principales. La première raison, c'est d'abord que on sait que cet homme qui ramassait du bois, il a fait une faute. Il a fait une faute parce que c'était le sabbat. Le sabbat, on ne travaillait pas. Et il a ramassé du bois. Combien, je n'en sais rien. Mais il ramassait du bois le jour du sabbat. Sabbat, oui, c'est choquant. Il a fait une erreur. Il a un peu méprisé le sabbat. Mais ce qui est choquant, c'est que ses compatriotes vont le prendre et l'amènent au chef du peuple, à Moïse, et le tiennent sous bonne garde pour qu'il soit puni. Ils le dégonflent. Ils auraient pu l'avertir en lui disant, écoute, c'est le sabbat. On n'est pas censé travailler ce jour-là. Non, ils le dégonflent. Ils l'amènent à Moïse pour qu'il soit puni. Et ils le tiennent sous bonne garde. Sous bonne garde, ça veut dire qu'ils l'ont probablement contraint. Ensuite de cela, deuxième raison qui est choquante, c'est que Moïse ne savait pas quelle peine il fallait infliger. Donc, il a consulté Dieu et Dieu lui a dit, il faut le mettre à mort. C'est extrêmement choquant, si vous voulez, de voir la disproportion entre le fait de ramasser du bois et le fait d'être mis à mort. Je trouve que la proportionnalité entre la faute et la sanction nous heurte. Et enfin, une troisième chose qui est très choquante, c'est qu'aussitôt la peine prononcée, le peuple, comme un seul homme, ramasse des pierres et tue son compatriote sans état d'âme. C'est très choquant. Et c'est Dieu qui a ordonné ça. C'est le Dieu duquel nous disons, il ne change pas. Il n'est pas comme un homme pour changer. Ça nous heurte quelque part. Mais heureusement, nous le savons, Dieu n'est pas que comme dans cet épisode. Nous allons y revenir, mais auparavant, je vous présente une petite parabole. Alors, c'est modeste, mais c'est une petite parabole pour expliquer quelque chose. Parce que je pense que ce ramasseur de bois, dans le Grand Genève, on lui aurait donné un avertissement, il aurait récidivé, on aurait donné un deuxième avertissement, et puis on aurait dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être lui mettre une amende, et on va calculer l'amende, il y en a pour des mois. Et on aurait dit, il faut lui infliger une peine, une amende à la hauteur du montant du bois volé. Puis comme le bois volé, il est volé à personne, il ne vaut rien, donc ce serait une amende prononcée, mais jamais infligée. Ça serait un peu ça. On aurait trouvé moult circonstances atténuantes pour ne pas punir cet homme. Donc on va y revenir, on va d'abord faire une petite parabole. Cette petite parabole sera faite par cet appareil et elle va nous montrer, je l'espère, la relation entre notre foi et notre comportement. Alors ça, c'est une boule, on pourrait dire que c'est une boule de Noël. Oui, au sens que... Bon, elle n'est pas très belle parce que c'est du papier d'alu, mais je suis sans le sou. Alors j'ai récupéré du papier d'alu pour faire cette boule de Noël. Mais si je prends cette boule de Noël, qui n'en est pas une, et je la balance, en fait c'est un pendule. C'est un pendule, c'est un instrument de physique. C'est un instrument de physique. Qui balance et qui revient toujours sur une même trajectoire. Même si je bougeais la table, le pendule resterait toujours dans cette direction. Cet appareil, il est constitué ici d'un ancrage très solide. Ça, il ne faut vraiment pas que ça bouge. J'ai essayé avec du bois, des choses pas solides, il ne marchait pas. Il doit être ancré très solidement. Il y a une grosse barre d'aluminium là, pour que ça balance. Il peut avoir donc une ficelle plus ou moins longue. Si plus elle est longue, plus le balancement est lent. Plus elle est courte, plus le balancement est rapide. C'est une loi physique. Je ne sais pas exactement le détail. Il faut une masse, si possible, lourde, parce que cette masse... elle doit vaincre des courants d'air. Si je mets une plume d'oiseau à la place de la boule, elle fait une seule course, elle s'arrête. Cette masse aussi, pendant un certain temps, elle s'arrête spontanément. Vous voyez, là, elle commence un peu à s'arrêter. Et pour le maintenir en perpétuel balancement, il faut que je lui imprime une petite énergie, là, qui lui viennent de l'extérieur. C'est moi qui lui pousse un petit peu cette ficelle. L'énergie doit venir de dehors. Et le plus célèbre pendule, il y en a eu des tas qui ont été construits, mais le plus célèbre se trouve suspendu à la coupole du Panthéon à Paris. La ficelle fait, c'est peut-être mieux qu'une ficelle, mais la ficelle fait 67 mètres et... Le pendule, le morceau de poids, fait 28 kilos. Alors, comme le fil est très long, la masse est lourde, mais c'est moins important, il fait que 4 allers-retours par minute. C'est très, très lent. Hein. C'est vraiment une course extrêmement lente. C'est Léon Foucault qui a construit cet appareil en 1851. Donc le mien, bricolé de toutes pièces, il fait à peu près la seconde. Il bat à peu près la seconde pour un fil de 80 cm. Maintenant, il y a une chose qui est un peu comme nous dans ce pendule. Bon, on dit aussi la pendule, c'est la montre. On n'est quand même pas des pendules, mais il y a quelque chose qui nous ressemble. Vous allez tout de suite comprendre. Cet ancrage qui doit être très solide, on va le situer ici, dans un nuage. C'est un nuage, un petit nuage. Un petit nuage comme on les aime. Un petit peu gris, mais ça ne fait rien. Ce nuage, il représente les choses célestes, les choses d'en haut, les valeurs supérieures, les valeurs transcendantes qui nous dépassent, ce que l'on croit et qui nous influence, mais avec notre consentement. Les religions, les philosophies, les politiques, le matérialisme, l'humanisme, toutes les valeurs transcendantes, les valeurs qui sont au-dessus d'un seul individu. Donc, l'ancrage solide dans les valeurs et dans certaines valeurs. Et donc, il y a encore un fil, donc je l'explique du haut en bas. Il y a, après cet ancrage, un fil qui doit être aussi très solide. Et en fait, il attache l'ancrage et une masse là en bas, une masse du côté terrestre. Alors, ce nuage représente pour nous notre credo, je crois, ce que nous croyons. Sur le plan spirituel, notre credo chrétien, ce qui donne du sens à notre vie. La ficelle, elle relie ce qui est céleste à ce qui est terrestre. Elle fait donc la relation entre deux choses, ce lien est la foi entre nos valeurs qui sont là et nos personnes terrestres. Le céleste, c'est les valeurs, le terrestre, c'est les personnes. Le lien de la foi. Évidemment, la masse oscillante, qu'est-ce que c'est que cette masse? Attention, quand on parle de masse, on parle de poids et la balance n'est pas loin. La ficelle de la foi est reliée à nos valeurs célestes, elle relie à nos valeurs terrestres, cette valeur terrestre qui peut osciller et qui peut aussi ne pas osciller. Parce que là, si je la laisse reposer, je ne sais pas, une demi-heure ou 10 minutes, elle s'arrête. Donc, cette masse qui peut osciller, c'est en fait notre personnalité, notre personne consciente, ce qui anime notre corps, en fait, ce qui fait que notre corps n'est pas un cadavre, il est un être animé, corps et âme. Donc, notre être a quelque chose qui peut osciller entre deux choses, entre deux pôles. En fait, il le fait tout le temps. Il y a quelque chose en nous qui oscille tout le temps entre deux choses. Ce qui est intriguant, c'est ces alternances. Quels sont ces pôles? Parce qu'on pourrait dire que ces deux pôles, vous voyez, le pendule, il s'arrête et il repart dans l'autre sens. On ne voit pas l'arrêt parce que c'est très rapide, mais il s'arrête une milliseconde pour repartir dans l'autre sens. Et donc, on va regarder vers quoi il va. Il va d'un côté, de ce côté, il va vers cette boîte, une boîte bizarre, grosse chaîne, belle boîte, mais grosse chaîne, avec un cadenas à bus à la Migros 230. Et cette boîte complètement bloquée est belle. Bon, elle est décorée avec des livres, des fruits. Elle fait assez envie de savoir ce qu'il y a dedans, mais comment voulez-vous l'ouvrir? Elle a même une petite poignée, elle a une petite tirette. Comment voulez-vous l'ouvrir? Il y a une chaîne qui fait les deux sens plus un cadenas. Et donc c'est assez bizarre, elle a une tenue de camouflage plus une chaîne. Est-ce que c'est quelque chose qui doit rester secret? Est-ce que c'est quelque chose qui est tellement précieux qu'on n'a pas envie de se le faire voler? Est-ce que c'est quelque chose qui est tellement infâme et moche qu'on ne veut pas le montrer? Mystère. Pour voir son contenu, il faut absolument avoir la clé du cadenas. Si on casse la boîte pour voir ce qu'il y a dedans, on casse aussi ce qu'il y a dedans. Bon. Donc, quelque chose qui est peut-être précieux, qui est peut-être très beau, qui est peut-être horrible, on ne le sait pas. C'est invisible ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a que deux personnes dans l'univers qui ont la clé du cadenas. Alors, si c'est ma boîte, moi j'ai la clé, je ne la prête pas, évidemment. Et il y a une autre personne qui a la clé, c'est Dieu lui-même. Dieu et moi. Alors vous avez compris, je pense que vous avez déduit, que ce qu'il y a dans cette boîte, c'est nos pensées intimes. Nos pensées, nos idées, nos réflexions qui ne se voient nulle part. Là-dedans. Donc, mes réflexions, mes pensées qui sont invisibles. Elles et les vôtres aussi sont invisibles. Si vous voulez penser du mal de moi, profitez, je ne le vois pas. Et donc, secret, top secret. Maintenant, de ce côté, il y a quelque chose d'autre. Alors ça, vous ne pouvez pas forcément deviner ce que c'est. C'est un jeu que j'ai fait pour mes petits garçons. J'ai deux petits garçons. Ça fait un petit bruit. C'est une crécelle. Une crécelle, ça sert en fait à faire du bruit pour attirer l'attention dans une manifestation. Hein? Une manifestation. Les EM vaincra. Les EM vaincra. Hein? On est 200 000 à crier ça avec des crécelles. Ça fait un potin immense, mais c'est un moyen d'exprimer une pensée. C'est symbolique. Voilà. La crécelle et mes mouvements et mes paroles rendent visibles les pensées qui sont dans la boîte. Donc, ce qu'on peut inférer de tout ça, eh bien, c'est que cette oscillation entre les pensées et les actes, les actions, les paroles, c'est notre comportement. Notre comportement rend visible les pensées invisibles. Pour ça, c'est assez limpide. Dans le pendule physique de Léon Foucault, l'instrument de mesure, il y a encore cette question d'oscillation. Pourquoi ça oscille ? Je ne vais pas vous donner un cours de physique, hein, parce que j'en serais parfaitement incapable. Le pendule de Foucault, le pendule physique, a une grande régularité dans son mouvement. Si le mouvement est bien entretenu, il montre le défilement du temps. On fait des pendules de parquet, ce sont des pendules dans lesquelles ce pendule est couplé à de la mécanique et ça fait une horloge. Les pendules, c'est ça, des pendules, mais il y a de la mécanique pour montrer l'heure. Dans le pendule physique, il y a une relation entre la longueur de la ficelle, la masse. Si vous voulez des détails, vous demandez à Sylvain Dupertuis ou son fils Joël que je vois là, et ils vont vous donner les détails, vous expliquer toute la mécanique en moins de temps qu'il n'en faut pour cuire des asperges. Dans notre pendule personnel, qu'est-ce que nous rendons visible? Pourquoi ça aussi? Ah. Ah, il y a un court-circuit? Non. Merci. Dans notre pendule personnelle, notre pendule de notre vie personnelle et spirituelle, qu'est-ce que c'est que ces oscillations? Eh bien, les oscillations montrent pas la marche du temps, mais montrent la marche chrétienne. Et une évolution. La marche du temps, ben on la voit. La marche chrétienne, on doit la voir aussi. Si le pendule de notre vie oscille, on voit aussi notre marche chrétienne. Et donc, le pendule personnel, c'est croire, penser, agir dans une marche qui s'appelle la sanctification, le perfectionnement spirituel. Notre comportement traduit nos pensées en action, en expression. Nos pensées sont ancrées dans nos valeurs célestes. C'est un grand clin d'œil à Céline Aimoff. Céline Aimoff, qui était responsable, présidente, je pense, des GBU, Groupe Biblique des Universités, dont le slogan est « Croire, penser, agir ». On va arrêter la petite parabole parce que il y a un aspect lié encore à ce mouvement. J'ai dit que ce mouvement doit peut-être entretenu, elle s'arrête toute seule, mais ce mouvement peut être entretenu si une énergie extérieure est appliquée. S'il n'y a pas cette énergie extérieure, il s'arrête. Pour le pendule de la foi, le pendule croire, penser, agir, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui met une dynamique qui ne vient pas de nous. L'Esprit Saint est externe à nous, mais il agit sur nous. Et alors, il y a une petite allégorie encore. Encore deux petites remarques sur ce mouvement. Si l'énergie communiquée par l'esprit dans notre pendule des pensées et des actes s'interrompt, les deux pôles, pensée et action, commencent un peu à se rapprocher. Ça commence un peu à se rapprocher. Ça risque de devenir confus, tout simplement confus. Ça devient un mélange. Est-ce qu'on peut dire encore que le pendule balance, est-ce qu'il oscille? Ouais, tout petit peu, un millimètre, il va s'arrêter, on ne peut pas trop savoir. Et donc, si le pendule s'arrête parce qu'il n'est pas stimulé par une force extérieure, eh bien, cette énergie subtile de l'esprit pour notre pendule personnel, eh bien, il risque d'y avoir une perte de visibilité. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Il y a quelque chose de plus que des simples paroles. Et donc, si ces deux pôles commencent à devenir confus, eh bien, l'expression de nos pensées chrétiennes ou de notre culture chrétienne se réduit à rien. Notre vie chrétienne se réduit à une culture. À une culture, par exemple, où la personne dirait « je suis croyant, mais pas pratiquant ». Je suis croyant, mais pas pratiquant, je suis un chrétien invisible. Ça ne se voit pas, ça reste dans mes pensées. Au pire, si le pendule est complètement arrêté, notre pendule personnel est complètement arrêté, alors on devient une patate de canapé spirituelle, première chose, et ensuite, on pourrait dire que c'est l'apathie. Il n'y a plus rien de visible. Ce pendule, cette masse qui nous représente, hein, j'aurais dû mettre un cœur là, mais je n'avais pas les moyens de fabriquer. Ce cœur qui est complètement apathique, eh bien, il est sensible qu'à une chose, les sensations, la température, un petit courant d'air. S'il fait chaud, il chauffe. S'il fait froid, il est froid. Il devient simplement apathique et ne subsiste que des sensations puisque pensée et action sont confuses. Et le grand risque, c'est d'en arriver à considérer que le bien correspond à ce qui est agréable et le mal correspond à ce qui est désagréable. C'est mal parti quand on a cette vision du bien et du mal. Et à certains égards, notre société favorise cela. Maintenant, je vous propose de lire un deuxième texte. On a fini la parabole.
Donc je vais lire dans Luc 14, versets 28 à 30. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ».
Merci Alexia. Je fais une petite actualisation tout de suite. Pour le groupe Rénovation, le pendule est resté longtemps sur... Faut le lever. Voilà. Pour le groupe Rénovation, le pendule est resté longtemps sur réflexion, sur le pôle réflexion. Oh, des années. On s'en est usé les pantalons. Hein. Assis pour savoir si on avait assez d'argent. Non pas pour construire une tour, mais pour rénover la petite chapelle. Ça a pris un temps fou. Et puis ensuite, action. Le pendule a passé sur l'action. Et donc maintenant, on a su qu'on avait assez d'argent pour mener à bien la construction de la tour, de la chapelle. Maintenant, le pendule va repasser de l'autre côté. L'oscillation repart sur réflexion. Qu'allons-nous faire et comment allons-nous utiliser la chapelle? Et ça reviendra sur l'action. Ou l'expression, comment on va le faire pratiquement. À l'attention de nos visiteurs occasionnels, j'aimerais signaler que l'orientation théologique de notre maison, de notre chapelle ici, on va parler du plan collectif maintenant, plus de l'individu, mais du plan Église. Je signale que l'orientation de notre Église, notre communauté, c'est la dimension évangélique. On est une église évangélique. Évangélique, c'est marqué en toutes lettres sur le bandeau quand vous entrez. Cette précision, pourquoi on n'a pas mis, par exemple, église chrétienne de Mérin? Pourquoi on n'a pas mis église de Jésus-Christ à Mérin? Parce que, en fait, c'est ça, mais on a voulu mettre évangélique. Église du Christ, ça serait juste. À l'origine, l'Église était seulement chrétienne. Le fondement des apôtres, c'était seulement chrétienne. C'était ceux du Christ. L'Église, c'était ceux du Christ. Et elle est devenue en 311, je crois, l'Église catholique, dite universelle. Constantin, par là. Puis elle a éclaté en de nombreuses branches. À partir de la réforme, différents courants, beaucoup de dénominations luthériennes, réformées, baptistes, anabaptistes, anglicanes, protestantes, évangéliques, pentecôtistes. C'est étonnant ça. J'ai fait une petite recherche et j'ai vu que le World Christian Encyclopedia, 1980, un article d'un certain David Barrett, Oxford University Press, c'est des huiles lourdes, hein, University Press, a donné le nombre de dénominations différentes du christianisme. Vous y croiriez pas. 20 780 dénominations chrétiennes. C'est humiliant. Je dis que c'est humiliant parce que ces dénominations résultent pour une part d'entre elles de conflits. Pas toutes, mais beaucoup résultent de conflits, de sensibilités, de doctrines, de coutumes, etc., qui n'ont pas trouvé d'autre solution que le divorce ecclésial. On peut les appeler des schismes, mais c'est bien des divorces ecclésiaux. On va prendre peut-être un exemple sur quoi nous, on n'est pas enclin à faire tellement de concessions. Alors, je vous cite un exemple. Au hasard, nous, par exemple, nous mettons l'accent sur quelques principes théologiques envers lesquels nous ne sommes pas tellement enclins à faire des concessions. Par exemple, la Bible est reçue comme parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est inspirée, dictée des tout petits bouts, comme les 10 commandements, mais principalement inspirée à ceux qui l'ont rédigée et inspirée dans un sens inhérent, c'est-à-dire sans faute. La Bible ne contient pas d'erreur. Elle peut contenir une erreur typographique, un mot, on adapte une traduction, mais le sens de la Bible, il est inhérent, il est sans erreur. Donc, la Bible fait autorité. Pour nous, ça, c'est un principe auquel nous tenons. Deuxième chose, la prêtrise de Jésus-Christ, telle qu'exposée dans les évangiles, nous révèle comment être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de deux choses. La perdition éternelle et sauvé d'une vaine manière de vivre. Ça, c'est deux choses desquelles nous sommes sauvés par la vertu de Jésus-Christ. Et nous sommes chrétiens en vertu de notre foi, et non pas parce que nous sommes inscrits dans un fichier sur une paroisse. Donc, notre allégeance à Jésus-Christ se concrétise. Notre allégeance dans la pensée, le pendule va pour la concrétiser dans le baptême. Le baptême concrétise notre allégeance à Jésus-Christ. Et puis, la réforme, elle nous a beaucoup inspirés. La réforme au XVIe siècle, notamment les 5 très fameux sola de Martin Luther, pour mémoire sola fide, la foi seule sauve, sola scriptura, l'écriture est la seule révélation, sola Christus, le Christ seul est la source du salut, sola gratia, la grâce seule sauve, soli deo gloria, tout est à la seule gloire de Dieu. Et enfin, dernier principe auquel nous tenons, eh bien, on pourra dire l'analogie de la foi qui est une manière d'interpréter la Bible par la cohérence de son contenu. La Bible s'interprète elle-même. La réforme du XVIe siècle est partie d'un conflit au sein de l'Église catholique. Martin Luther a contesté l'autorité ecclésiastique parce qu'elle mettait un accent trop fort sur des actes réparateurs des péchés que les fidèles étaient censés accomplir. Une fois le divorce catholique réformé prononcé et 500 années pour se calmer, est-ce que les problèmes sont réglés? Pas tout à fait, puisqu'il y a encore 20 000 dénominations. Elles ne sont pas ennemies les unes des autres. Heureusement que les dénominations ne sont pas ennemies. Mais la question de fond est la suivante, est-ce que nous allons vers l'unité ou est-ce que nous allons vers la fragmentation de l'Église de Jésus-Christ? Allons-nous vers d'autres conflits théologiques? La réponse, certainement. Et il y en a un qui est en préparation, un sérieux, qui est en préparation, non pas au sein de l'Église catholique, mais au sein de l'Église protestante, cette fois-ci. On va reprendre une situation illustrée par notre cher petit pendule, croire, penser, agir, appliquée au comportement ecclésial, comportement institutionnel. La doctrine, c'est la pensée, la piété, c'est l'action. Un conflit vient d'éclater au sein de la grande famille des églises protestantes, de l'église, disons, le courant réformé, l'église évangélique réformée, traditionnelle, et le courant évangélique qui est le nôtre. En résumé, le 4 novembre 2019, c'est pas vieux, l'Assemblée des délégués de la Fédération des Églises protestantes de la Suisse, qui représente quand même 26 églises, 1000 paroisses et environ 2 400 000 membres, c'est pas rien, a voté à une large majorité une disposition formulée dans un communiqué que je vous lis. L'Assemblée des délégués de la Fédération des Églises protestantes de la Suisse a donc approuvé l'ouverture du mariage aux couples de même sexe au plan civil. L'Assemblée des délégués recommande en outre à ses églises membres d'adopter d'éventuelles modifications de la définition du mariage au plan civil comme prérequis au mariage religieux. Bien, le 27 novembre, hein, c'est dans le même mois, il y a 23 jours de différence, les autorités de l'Église protestante de Genève publiaient le communiqué suivant. L'Église protestante de Genève accueille et accompagne toute personne sans condition d'âge, d'origine, de genre, d'orientation affective et sexuelle, de religion ou de confession. On peut applaudir, on accueille tout le monde, on applaudit. L'EPG, l'Église protestante, reconnaît dans la conjugalité, dans le lien du mariage, une dimension importante de la réalisation de soi sous le regard de Dieu. On est d'accord. Elle encourage et soutient les couples pour qu'ils puissent vivre leur amour dans la durée. On est d'accord. Elle bénit les couples unis civilement, qui lui en font la demande et qui s'engagent à placer leur alliance devant Dieu et devant la communauté chrétienne. On applaudit. Il n'y a rien à redire. On est d'accord avec ça. Phrase suivante. La bénédiction est la même pour les couples de même sexe que pour les couples de sexe différents, même si elles n'engagent pas de la même manière la filiation. Ça, les évangéliques, non, on ne souscrit pas. Il n'est évidemment pas question de blâmer quelqu'un, de blâmer des personnes, parce qu'elles ont une caractéristique personnelle minoritaire dans la société, notamment celles qui peuvent bénéficier d'un partenariat enregistré qui est une disposition légale visant à donner des droits de succession équivalents aux couples mariés. Et donc, c'est un traitement administratif qui est tout à fait accessible. Mais dans cette situation, quel est le conflit? Quel est le conflit? Le conflit est le suivant. Si on commence à donner différentes définitions au mariage en disant qu'au fond, elles sont toutes équivalentes, elles sont toutes bénies par Dieu, qu'est-ce qui empêchera de mettre par analogie sous ce fameux label de mariage inclusif qui est à la mode toute forme d'alliance basée sur un lien d'affection, un lien fort d'amour entre deux êtres? Je prends un exemple, un amour entre un adulte et un enfant, entre un adulte et un objet, un adulte et un animal. On ouvre la boîte, on ouvre la porte à toutes les divergences de la définition divine du mariage qui est ainsi vidée de son sens originel. Alors, avant de conclure, on va encore imaginer un petit débat. On fait un petit débat. Est-ce que notre comportement est défini par Dieu ou pas? La question. Débat sur cet objet. Certains pensent que oui, certains pensent que Dieu nous a créés, il est donc l'auteur de notre comportement parce qu'il nous a créés avec les caractéristiques qu'on a. J'ai les yeux grisâtres, je ne vais pas les changer. Celui qui a les yeux verts ou violets, il a de la chance, mais on ne peut pas, à moins de mettre des verres de contact, éventuellement changer la couleur de ses yeux, mais la plupart de nos caractéristiques, on ne peut pas les changer. Et on ne les a pas forcément choisies, à commencer par notre corps et notre genre, masculin, féminin ou autre, devons-nous dire aujourd'hui. Sans parler de la culture dans laquelle nous sommes venus au monde. Donc, ça veut dire qu'en fonction de ça, que Dieu soit l'auteur ou en dernier ressort le responsable de notre comportement, c'est évident. Partie des gens qui pensent comme ça. Une deuxième partie des gens, et j'en suis membre, pense que non. Je ne pense pas que Dieu, en nous créant, avait déjà déterminé notre comportement. Nous n'aurions aucune liberté et le péché serait inexistant si Dieu nous avait créés avec notre comportement. Par conséquent, dire que Dieu est l'auteur de notre comportement, c'est dire que Dieu est l'auteur du péché. Et ça, ça ne joue pas. Il est très bien vu aujourd'hui d'être inclusif. Vous connaissez ce mot, il faut être inclusif. Il faut tout accepter. Et il ne faut jamais discriminer. C'est-à-dire ne pas rejeter, ne pas dévaloriser, ne pas mettre de côté. La discrimination, aujourd'hui, c'est pire que le mal, le diable et l'enfer réunis. Si j'ai un seul conseil à vous donner, surveillez votre langage en public, parce qu'une seule opinion peut vous valoir la prison. Peut-être pas à Genève, parce qu'à Genève, on tolère tout, mais pas très loin. Une seule opinion exprimée, il peut vous valoir la prison. Il y a des concepts comme les phobies, homophobie, islamophobie, xénophobie. On en a plein la presse. Moi, je trouve qu'il en manque une au tableau de ces phobies. C'est la christianophobie. La christianophobie. Combien de chrétiens sont persécutés? Combien de chrétiens sont mis à mort, humiliés, sans cause, exécutés sur la base de rumeurs, sans jugement? Et ceux qui commettent ces horreurs, ce n'est pas des christianophobes, par hasard. On n'en parle pas beaucoup, des christianophobes. Jamais lu ce mot, jamais. Je pense sincèrement qu'il faut discriminer. Il faut beaucoup discriminer, beaucoup rejeter, beaucoup mettre de côté, beaucoup mettre à distance. Mais quoi? Mais quoi? Eh bien, ce n'est pas les gens qu'il faut discriminer, c'est des comportements. En commençant dans notre propre vie personnelle. Pourquoi? Parce que si tous les comportements sont égaux, tous les comportements sont justifiés, tous les comportements sont bons, eh bien, à quoi sert la justice? À quoi servent les lois? À quoi sert le droit pénal? À quoi servent les prisons? Remarquons que les gens qui venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste en Luc 3 demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean répond à la foule, partagez tout ce qui dépasse vos besoins vitaux. Je résume, partagez ce qui dépasse vos besoins. Vous avez deux chemises, donnez-en une. Au collecteur d'impôts, n'exigez rien de plus que ce qui est convenu. Rien de plus, n'extorquez pas les gens. Aux soldats, ne raquettez pas les gens et contentez-vous de votre solde. C'était peut-être pas lourd, Moi, quand j'étais au service militaire, la solde, c'était 2 francs par jour. C'est pas lourd. Contentez-vous de votre solde. À la question « Que devons-nous faire ?», la réponse était claire. Changez de comportement. Pratiquez la justice. Dites la vérité. Partagez vos biens. Et Jésus ira dans le même sens. Convertissez-vous, ce qui veut dire ancrez votre foi dans les valeurs célestes de l'Évangile et ainsi, votre comportement, vos pensées et votre comportement va changer. Je pense que Sarah, notre sœur africaine qui est par là souvent, ne s'est pas rendue compte. Elle ne pouvait pas le savoir parce que c'était dans mes pensées que ça s'est fait. Lors de son baptême, elle a dit quelque chose qui m'a bouleversé. La première fois que j'entendais ça. Elle était très brave, elle a dit un peu son passé. Elle a dit tout à coup, avant de passer dans le truc là, pour se baptiser, ce qui va changer dans ma vie, c'est mon comportement. Ça m'est rentré dans le cœur, comme jamais j'ai entendu un témoignage. Et il n'y a rien de plus juste que ça. L'allégeance à Jésus-Christ, ce nouveau système de pensée, convertissez-vous, produit des actes différents. La conclusion. Le ramasseur de bois, il a défié Dieu consciemment après avoir été instruit. On ne vous a pas lu le verset qui précède le verset du ramasseur de bois, mais je vous le lis maintenant. Si quelqu'un commet délibérément une faute, qu'il soit autochtone ou immigré, c'est valable pour tout le monde, il fait injure à l'Éternel, il sera retranché du milieu du peuple,
pour avoir méprisé la parole de l'Éternel et violé son commandement, il doit être retranché du peuple, car il porte la responsabilité de sa faute. Alors, ce terrible châtiment exprime le jugement de Dieu. Il a raccourci la durée de vie d'un homme pour que peut-être ses compatriotes soient sauvés d'un même genre de punition par leur mépris de la parole de Dieu. Si l'ensemble du peuple avait méprisé le sabbat, avait commencé à se dire, bon, on s'en fiche du sabbat, la colère de Dieu, quand elle est collective, ça fait mal, hein, faut pas l'oublier. Dieu nous donne du temps et des instructions pour être pardonnés, mais quel est le remède si on refuse? Quel est le remède à la perdition si on refuse le pardon, si on refuse consciemment, volontairement et durablement le pardon offert? Mais quel est le remède? Mais il n'y en a pas. La réponse est simple, il n'y en a pas. Et le ramasseur de bois, il a peut-être eu, par sa mort, la vertu de faire comprendre qu'on ne défie pas Dieu impunément. Du reste, ses compatriotes, ils ont dû s'en rappeler de cette lapidation. Alors, il faut que j'arrête, parce que le temps a passé, le pendule l'indique, il s'est arrêté. On est à 3 jours de 2020. Qu'est-ce qu'on va vivre? La réponse est des plus simples. On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. On va sûrement se souhaiter une bonne année. Oh, ça, on le fait toujours. Bonne année, petits bisous. On le fait toujours. Parce qu'on espère vivre et on espère qu'on fera des choses. Et on espère qu'on aura du bonheur. Mais on veut le plus cher pour nous tous, c'est que le lien de notre foi soit bien ancré, reste bien ancré dans les réalités célestes de l'Évangile. Pour que notre comportement exprime les pensées que l'Esprit Saint nous donne à exprimer. Que le Seigneur vous bénisse.
Alors, avant de passer à un moment de louange, je voulais introduire ce moment après cette prédication, où pour moi, il faut qu'on aille encore plus loin que ce que Philippe a dit, où notre ancrage, ce n'est pas seulement dans des valeurs, parce que les valeurs sont souvent liées aux pensées, aux opinions qui peuvent changer, mais pour moi, c'est un ancrage en Jésus, en Dieu, qui est peut-être la seule chose qui ne change pas dans ce monde, alors que nos opinions, nos valeurs, si on regarde l'histoire, les siècles qui se sont déroulés, voilà, c'est des choses qui peuvent changer. Notre ancrage en Dieu, c'est lui qui va influencer nos opinions et nos valeurs, et c'est ça qui ne doit pas changer. Et pour moi, l'ajustement entre nos comportements et nos valeurs, et nos opinions, doit se faire surtout sur celles les plus importantes en premier. Des fois, il y a beaucoup de débats qui peuvent prendre la tête, prendre du temps. Et pour moi, on oublie parfois qu'en premier, Dieu s'est fait amour. Il est venu sur terre, il nous demande de nous aimer les uns les autres, de l'aimer lui. Et pour moi, si on s'ancre sur Dieu, sur l'amour pour lui, tout le reste va aussi s'aligner dans notre comportement, dans nos pensées, dans nos valeurs. Donc je vous invite à chanter « Jésus soit le centre » et pensez vraiment, nous, sur terre, on change, on passe. Dieu est la seule chose qui est immuable dans ce monde et c'est sur lui qu'on doit fixer nos yeux.
Donc vous pouvez prendre ce temps de louange aussi comme un temps de méditation si vous voulez. Si vous souhaitez vous lever et chanter avec nous, rejoignez-nous avec plaisir. Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus.
source, Jésus.
S'exprimer ce que vous avez à cœur.
Je suis à toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
Je vous invite à prendre ce dernier chant. Nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de
Autre, il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit la coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de cieux soit établi. Ensuite, il prit du pain et remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance par mon sang qui va être versée pour vous. Pour ce moment de Sainte-Cène, nous vous proposons de faire un chemin vers le pain et le vin, de quitter vos places en démarrant par le fond, par les deux allées et repartir par les extérieurs. Et pour ceux dont la mobilité ne le permet pas, faites-nous signe et on viendra vers vous. Dans ce moment, nous nous rappelons l'incarnation, la mort sur la croix et cette résurrection extraordinaire qui nous permet, après son acceptation de notre part, d'être vus par le Père comme saints. Nous nous rappelons notre ancrage qui ne change pas au travers des années, des siècles. Et dans le chemin qui nous amène ici, devant, nous voulons nous rappeler quelques événements du chemin de notre Seigneur, de Christ, de les méditer, et que son exemple s'imprègne en nous pour voir le vivre dans notre comportement. Je vous propose de venir devant. passer à l'offrande. C'est un moment pratique qui, comme dans le tabernacle ou le temple, permet le fonctionnement pratique de l'Église. C'est un moment libre et volontaire où chacun fait selon son cœur, selon ce qu'il a préparé.
Quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai. Profonde dans le doute, quand ma paix semble fondre, oh. Jésus, je te suivrai.
Nous allons passer aux annonces, Elisabeth, je crois. Et ensuite de quoi nous aurons la bénédiction, elle sera chantée tout ensemble, chantée ensemble pour s'adresser aussi l'un à l'autre.
Alors pour cette semaine, les activités, il n'y en a pas vraiment prévues, vu que c'est la fin de l'année. Nous avons ce matin le plaisir d'avoir Roger et Dominique Sowell, peut-être que vous les avez aperçus. Alors. Le mémo va sortir cette semaine, vous le recevrez par la poste ou par Internet. Donc, cette semaine, il va sortir. Dimanche prochain, peux-je vous dire qu'il y aura un repas canadien après le culte, donc pour tout le monde. Tout le monde est, comme d'habitude, vous amenez quelque chose. Puis si vous oubliez, il y a toujours assez, donc vous pouvez rester. Donc, prévoyez déjà. Et nous voulons penser que cette semaine, donc, nos jeunes sont au camp de ski à Champéry. Ils sont partis hier pour toute la semaine. Alors, nous voulons penser à eux, que tout se passe bien, penser aux responsables, qui ne sont pas très nombreux, aux cuisiniers, à l'orateur. Et nous, voilà, pensons bien à eux cette semaine, qu'ils vivent un bon camp. C'est toujours un moment fort pour le groupe de jeunes. Alors, ne les oublions pas. Et on peut penser aussi à nos pasteurs qui sont en congé cette semaine. Après des activités nombreuses de cet automne, ils en avaient bien besoin. Donc, Philippe, Claude et Célina sont en congé. Et on pense aussi à eux qui puissent bien se reposer et reprendre des forces pour la nouvelle année. et à tous, on vous souhaite déjà nos meilleurs vœux pour cette année 2020 qui vient avec la bénédiction de notre Seigneur.
Nous nous levons pour la bénédiction.
Sois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon.